Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Seydoudia, bonjour. En Côte d'Ivoire, un engin a explosé sans faire de victime au passage d'un véhicule de la gendarmerie à Kafolo, près de la frontière avec le Burkina Faso, théâtre récemment d'une attaque ayant fait 2 morts, a annoncé hier l'armée. Selon elle, l'incident a eu lieu dans la matinée du 12 avril sur le tronçon Petit Nassian Kafolo, à environ 2 kilomètres de cette dernière localité. Le 29 mars, un poste des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire avait été attaqué à Kafolo, faisant au moins 2 morts. Une station de radio dénommée Radio Jeunesse Sahel et visant à lutter contre l'extrémisme violent va être lancée dans les pays du G5 Sahel qui s'efforcent depuis 2017 de coopérer dans la lutte anti-djihadiste. John Lyndon nous donnera les détails. Les représentants de l'État sénégalais et une délégation du comité provisoire des ailes politiques et combattantes unifiées du MFDC se sont rencontrés à Praia, au Cap-Vert, les 8 et 9 avril, a indiqué lundi dans un communiqué le centre Henri Dunant pour le dialogue humanitaire, dont le siège est à Genève. Il s'agit des premiers pourparlers rendus publics entre Dakar et la rébellion indépendantiste de Casamance depuis ceux de Rome en octobre 2017. La rencontre a débouché sur une déclaration conjointe définissant les axes devant guider les négociations. Parmi eux, la proclamation solennelle de la volonté des deux parties de résoudre le conflit en Casamance par le dialogue. La campagne de vaccination contre la fièvre hémorragique Ebola a repris à Kepa Galaye, un village du sud de la Guinée, dont les femmes ont bloqué pendant plusieurs jours l'accès au personnel de la santé, a-t-on appris lundi auprès des autorités sanitaires. Le virus mortel est réapparu en Guinée en janvier, où 23 cas ont été signalés en Guinée après 4 ans et demi, après la fin de l'épidémie en Afrique de l'Ouest, qui avait fait officiellement plus de 11 300 morts, un bilan sous-évalué selon les autorités médicales. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a nommé lundi un gouvernement entièrement à sa cause qui tourne la page de l'encombrante coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila. Rosine Munezero fera le point. La pandémie de coronavirus en pleine expansion dans le monde, selon l'OMS, a fait plus d'1 million de morts en Europe et le bilan dans le monde approche des 3 millions de morts. Des millions de musulmans s'apprêtent à entrer à partir de ce mardi dans le jeûne sacré du Ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam. Presque tous les pays musulmans ont imposé des restrictions aux fidèles, leur demandant de prier chez eux, instaurant parfois des couvre-feux. Nous reviendrons sur le Ramadan avec Abdurrahman Dia. La périphérie de Minneapolis, ici aux États-Unis, connaissait lundi sa 2e soirée de manifestations et de troubles, malgré l'entrée en vigueur d'un couvre-feu visant à empêcher l'embrasement de cette ville après la mort dimanche de Dante Wright. Cet Africain-Américain de 20 ans a été abattu par la police à Brooklyn Center, dans la banlieue de Minneapolis, en plein procès du policier blanc Derek Chauvin, accusé du meurtre le 25 mai dernier de l'Africain-Américain George Floyd. Toujours aux États-Unis, la police de Knoxville, dans l'État du Tennessee, a mortellement touché par balle lundi un lycéen après que celui-ci a ouvert le feu contre des officiers au sein d'un établissement scolaire, blessant l'un des officiers. Cet incident vient allonger la liste de fusillades de masse survenues aux États-Unis depuis la mi-mars. Un nombre record d'avions militaires chinois, 25 au total, ont pénétré lundi dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan a annoncé le gouvernement taïwanais au lendemain d'un ferme avertissement américain. La suite de nos informations, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a nommé hier un gouvernement entièrement à sa cause. Cette nouvelle équipe tourne la page de la coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila. Le point avec Rosine Munezero.
Cette nouvelle équipe baptisée gouvernement de l'Union sacrée de la nation compte 57 membres dont 14 femmes. Eve Bazaïba, secrétaire générale du MLC de Jean-Pierre Bemba, est nommée ministre de l'Environnement avec rang de vice-premier ministre. Christophe Lutundula, un partisan de Moïse Katumbi, est nommé au ministère des Affaires étrangères. Christian Mwando, un autre proche de Katumbi, a pris le ministère du Plan. Le ministre de la Défense est en général médecin à la retraite, Gilbert Kabanda, proche du président Félix Tshisekedi, et celui de l'Intérieur revient à Daniel Asselo Kito, secrétaire général adjoint de l'UDPS, le parti présidentiel. Les principes de représentativité et d'inclusivité ont été respectés, a déclaré le nouveau Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, nommé il y a quelques semaines. Ce nouveau gouvernement aura beaucoup de pain sur la planche. Il devra notamment faire face à l'insécurité, l'économie précaire, la corruption, la gratuité de l'enseignement de base et la situation sanitaire aggravée par la pandémie de coronavirus.
Une station de radio visant à lutter contre l'extrémisme violent va être lancée dans les pays du G5 Sahel. L'annonce en a été faite officiellement hier, lundi, à Ouagadougou. John Linden.
Dénommée Radio Genès Sahel, la station cible des auditeurs de 15 à 35 ans. Elle émettra à partir de Ouagadougou pour sensibiliser les populations contre l'insécurité et l'extrémisme violent, selon les termes d'une convention signée dans la capitale burkinabé. C'est une radio qui va être d'une grande importance car l'objet est de proposer des thématiques qui luttent contre le radicalisme et l'extrémisme violent, a déclaré Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères. Cette radio est le fruit d'une convention de concession de services publics entre l'Organisation internationale de la francophonie et le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso. Les programmes de Radio Genès Sahel seront orientés vers les jeunes et l'ensemble des populations dont la lutte contre l'insécurité, le chômage et l'ignorance, a expliqué le président du Conseil supérieur de la communication. La chaîne en continu émettra dans plusieurs langues, notamment l'arabe, le haoussa, le peul, le bambara, le mouré et le français, des langues parlées couramment dans les pays du G5 Sahel.
Le mois du jeûne du Ramadan commence aujourd'hui mardi dans beaucoup de pays musulmans, dont l'Arabie Saoudite, pays de naissance de l'islam, dans un contexte de pandémie de COVID-19. Le point avec Abdulrahman Dia.
Le roi Salman a souligné que le Ramadan démarre dans une période difficile en raison de la propagation du coronavirus. Nous remercions Dieu pour les efforts scientifiques et de recherche ayant permis la découverte de vaccins, a-t-il indiqué dans un communiqué lu à la télévision d'État. Le Ramadan génère habituellement à la Mecque une affluence importante de fidèles musulmans du monde entier. Le royaume a annoncé la semaine dernière que seules les personnes immunisées contre le coronavirus seraient autorisées à effectuer la Umra, le petit pèlerinage, et les prières dans la grande mosquée de la Mecque à partir du début du Ramadan. Cette mesure s'applique notamment aux personnes ayant reçu les deux doses nécessaires de vaccin et à celles ayant reçu une seule dose depuis au moins 14 jours. Le petit pèlerinage, suspendu en mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, a repris timidement à l'automne avec un nombre limité de fidèles et des mesures de précaution. L'Arabie Saoudite a enregistré près de 400 000 cas de COVID-19, dont 6 765 décès.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Au Burkina Faso, la société orifère Nexus Gold a annoncé le lancement du projet Mandjour Daïeré, un programme de reconnaissance minière avec des travaux de prospection et d'échantillonnage de roches sur 190 km². Nexus Gold est déjà bien implanté au Burkina avec les projets Bouboulou, Rakunga, Nyanguela et Dakouli 2, sur lequel un premier programme de forage a été lancé en octobre dernier. le Cameroun et la Société internationale islamique de financement du commerce ont signé deux accords hier, rapporte Financial Afrique. Le premier est un accord cadre où l'IFTC s'engage à mettre à disposition 250 millions de dollars par an sur 3 ans pour aider les importations dans les secteurs de l'énergie, des mines et de la santé. Le Cameroun est également désormais adhérent au programme phare de l'ITFC, le programme des ponts arabo-africains qui vise à soutenir les flux et investissements commerciaux entre les pays arabes et africains. Ici aux États-Unis, les marchés sont sur le qui-vive. Aujourd'hui, les investisseurs vont connaître les chiffres de l'inflation américaine avec la publication de l'indice des prix à la consommation pour mars. Ils pourront ainsi constater si la hausse des prix a connu une nette accélération le mois dernier, ce qui pourrait indiquer un risque de surchauffe de l'économie américaine.
Merci Claire. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. On connaîtra ce soir les deux premiers qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions en Europe. Le Paris Saint-Germain peut éliminer le champion en titre, le Bayern Munich, en quart de finale retour. Et pour cela, les Parisiens devront confirmer l'exploit de l'aller remporter 3-2. Kylian Mbappé, auteur d'un doublé à Munich, et ses coéquipiers visent le dernier carré de la Ligue des champions pour la deuxième année d'affilée. Ce serait aussi la troisième fois de l'histoire du PSG. Et cette revanche contre le Bayern Munich qu'il a battu l'an dernier en finale 1-0. Le Bayern justement compte de nombreux blessés, Robert Lewandowski, Corentin Tolisso, Douglas Costa et Niklas Süle. Marc Roca et Serge Gnabry ont été déclarés positifs au Covid-19. Des blessures handicapent aussi le PSG avec Mauro Icardi et Levin Kurzawa. Dans l'autre quart de finale retour, la mission s'avère compliquée pour le FC Porto, battu 2-0 à l'aller par Chelsea. Le défenseur français de Valence, Mukhtar Diakabi, compte aller au bout de cette histoire d'insultes racistes dont il dit avoir été victime en championnat d'Espagne. L'enquête n'a pas encore donné raison à Juan Cala, le joueur de Cadix, qui l'aurait insulté le dimanche 4 avril. L'enquête suit son cours. On doit passer devant un juge de la fédération, a précisé le joueur d'origine guinéenne. La Liga, l'organe gestionnaire du football professionnel espagnol, a assuré n'avoir trouvé aucune preuve dans aucun des supports disponibles à la Liga du fait que le joueur Juan Cala aurait insulté Mukhtar Diakabi dans les termes dénoncés. Selon la radio espagnole Copé, les micros ont enregistré Cala dire à Diakabi « Merde, fous-moi la paix », puis s'excuser en disant « Pardon, ne t'énerve pas ». Boxe, le français Souleymane Sissoko, remonté sur le ring le mois dernier, après un an et demi d'absence dû au coronavirus, va enchaîner avec un combat des super welter au programme de Canelo Alvarez le 8 mai dans le Texas, ici aux États-Unis. Sissoko, 29 ans, qui compte 12 victoires sans défaite, va affronter l'anglais Kieron Conway, 24 ans, 16 victoires, 1 défaite et 1 nul, à l'AT&T Stadium, l'enceinte de l'équipe de football américain des Dallas Cowboys. En jeu, la ceinture WBA internationale des super welter. Cet événement sportif pourrait rassembler le plus grand nombre de personnes dans un même lieu depuis plus d'un an que la pandémie de COVID-19 sévit. 60 000 spectateurs sont attendus.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le gouvernement tant attendu de l'Union sacrée a été finalement rendu public hier lundi. Un gouvernement assez réduit de 56 membres, mais pas assez pour certains. Ce dernier devrait avoir comme priorité notamment la sécurité, la santé, l'éducation et bien entendu la création d'emplois pour la jeunesse. Précision de notre correspondant à Kinshasa, Valdo Simon Yamba.
Le gouvernement était attendu depuis plus de 2 mois Bernard Kayumba, député national et président de la Panenko, parti du Nouvel Élan du Congo, s'est dit optimiste sur la capacité de ses premiers gouvernements de l'Union Sacrée pour atteindre ses objectifs.
Il faut être optimiste pour que le premier gouvernement de l'Union Sacrée fasse le nécessaire en relevant le niveau social de la population, en pacifiant l'Est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, il est donc question que ce gouvernement, qui vient d'être nommé, puisse se pencher sur la sécurisation de la population et de leurs biens.
Ce nouveau gouvernement comprend 56 ministres, soit 9 de moins que les précédents cabinets, un effectif réduit donc, mais pas assez, estime Bernard Kayumba.
Je pense que prochainement, il va falloir qu'on puisse résoudre la question de réduire les trains de vie des institutions de notre pays. C'est vrai qu'il y a quand même des frustrés des députés nationaux, mais nous pensons que la vie ne se termine pas là.
Renouvelé à 82%, dont 46 nouveaux membres, le gouvernement Samalou Koundé a certes fait une petite amélioration quant à la présence des femmes. Christelle Wanga est députée nationale du parti Ensemble de Moïse Katumbi, membre de l'Union Sacrée.
Je pense qu'il y a eu une nette évolution par rapport aux précédentes compositions du gouvernement. On est à 27%, ce n'est pas très loin de 30% qu'on nous avait promis.
Ces quotas assez élevés de la représentation des femmes dans un gouvernement est une première et les ministres femmes devraient faire leur marque. Christelle Wanga.
Nous voulons vraiment que pour la première fois où on atteint quasiment les 30%, que ces femmes puissent marquer leur époque, que l'on sente que la première fois où il y a eu cette représentativité, il y a eu des dames fortes qui ont fait relever le niveau de la gestion de la République.
Du côté de la société civile, l'on pense que les membres de ce gouvernement aspirent confiance. Dieudonné Mouchagaloucha est membre du panel de la société civile.
Et les noms qu'on vient d'avoir dans les gouvernements, ce sont des noms qui inspirent confiance. Si seulement si on va les permettre de bien travailler par rapport au contexte politique de l'Union Sacrée, on a essayé de faire l'équilibre pour éviter également des conflits politiques.
Nombreux sont les défis à relever, notamment le respect des promesses faites aux jeunes, estime Grace Dunia, une jeune diplômée de l'IFASIC, Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication.
Ce que j'attends de ce gouvernement, c'est de voir vraiment leurs promesses concrétisées en agissant de manière concrète, en incluant la jeunesse, en créant de l'emploi, en ouvrant vraiment des opportunités aux jeunes pour pouvoir se développer et développer le pays.
Ce premier gouvernement est donc attendu dans les jours à venir sur les nombreux défis de la RDC. De Kinshasa, Val de Simoyamba, VOA Afrique.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24 heures sur 24.
La situation sécuritaire semble se détériorer au Burkina avec une recrudescence des attaques terroristes sur la partie est et nord du pays. Une situation qui a poussé le CISAC, le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement, à faire une sortie pour donner sa lecture et proposer des pistes de solutions. Notre correspondant à Ouagadougou, Kader Traoré.
Après une accalmie, les actions terroristes se sont accrues au Burkina avec des attaques dans toute la zone du Sahel et de l'Est. Une situation qui endeuille les communautés vivant dans ces régions malgré la présence des forces de défense et de sécurité renforcées par endroits par les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Selon le CISAC, une institution indépendante d'information et de suivi des actions du gouvernement, la recrudescence des activités des terroristes est à craindre.
Bon, la question de la sécurité au Sahel et à l'Est est très préoccupante.
Issiaka Ouedraogo est le président du CISAG.
Et quand on prend par exemple les statistiques de janvier 2019 à décembre 2020, on a senti quand même une baisse vraiment très progressive de l'activité terroriste. Alors, mais depuis 4 à 5 mois, nous avons vu une recrudescence en tout cas de l'activité terroriste, et ce qui fait que ça devient très inquiétant. Les terroristes sont en train de prendre encore beaucoup d'espace et on ne peut pas faire 10 jours sans voir nos soldats ou nos VDP ou nos vaillantes populations mourir par des balles assassinées des terroristes.
Est-ce que les soldats ne sont pas fatigués de se battre contre un ennemi sans visage? À ce propos, Chérif Si, le ministre de la Défense, qui vient de rentrer d'une tournée dans les casernes de Dori, Djibo et Gorom-Gorom et bien d'autres localités, a affirmé que les soldats ont toujours le moral haut.
Au-delà des difficultés traditionnelles qui nous sont exposées, nous avons constaté d'abord que le moral des troupes est grand. Et nous avons été aussi surpris par une revendication portant sur la résilience à la fois des populations et des forces de défense et de sécurité.
Mais quelles solutions préconiser pour amener la calmie d'avant? Là-dessus, le CISAC a sa petite idée. Lui, Wenkuni Ouédraogo, est le chargé des questions publiques.
La première, c'est le recrutement des soldats. Alors nous avons demandé à ce que le gouvernement puisse recruter assez d'hommes de rang pour que vraiment on puisse lutter contre ce phénomène-là.
Le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement espère une augmentation des troupes du terrain afin de venir à bout du terrorisme. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
À Rockford, dans l'État américain de l'Illinois, une intervention policière au domicile d'un réfugié centrafricain s'est soldée par la mort de ce dernier. Les premières informations obtenues auprès de ses proches évoquent une bavure. La victime, Faustin Guétibo, 27 ans, est arrivée aux États-Unis en 2016 à la faveur d'un programme de réinstallation de réfugiés. Au micro de Firmin Max Koyaweda, Josué Nandikoué, l'un de ses cousins qui réside également dans la même ville.
Selon sa femme, ils se sont battus et la femme a appelé les policiers et les policiers sont venus. Il n'était pas là, il est sorti. Là, c'est dans la matinée. Et après soir, quand ils sont venus, on lui a demandé exactement ce qui s'est passé alors qu'il a battu sa femme. Et le policier a dit qu'il doit aller en prison. Le frère a dit non, moi je ne peux pas aller en prison parce que je suis fatigué avec la femme. Si elle appelle la police à plusieurs reprises. Et c'est ainsi qu'elle a décidé de dire non, j'en ai assez avec la police. Aujourd'hui je ne bouge pas. Peut-être la police peut me tuer ici, bouge pas d'ici.
Vous confirmez donc que les faits ont eu lieu au domicile du défunt?
Il y a domicile du défunt. Quand ils ont appelé l'ambulance et l'ambulance est venue, c'est de là que la femme aperçoit que son mari était tué et en plus un policier blessé.
Quelles sont selon vous les circonstances dans lesquelles le policier a été blessé et celles qui ont entraîné la mort de votre cousin? Et
on ne sait pas exactement comment on l'a fait tuer, comment le policier a été blessé.
Et le rapport de police, qu'est-ce qu'il dit exactement?
Dans les rapports où ils ont déposé, pour dire que le frère a une arme, donc c'est échange de tirs. C'est comme ça que le policier a été blessé, alors que le frère n'a rien comme une arme blanche.
La femme du défunt étant sur les lieux pendant que les faits se produisaient, a-t-elle donné sa version?
Ce que sa femme a entendu, une balle par la porte et après, deux hommes poussés par terre et le policier l'a mis en écart, qu'elle ne devrait pas aller là où cet incident a eu lieu.
Avez-vous déjà pris contact avec les autorités compétentes et si c'est le cas, quelles sont les dispositions qui sont les leurs?
Actuellement, ils disent qu'il y a la vidéo. Lorsque cet incident a eu lieu, il y avait des caméras et tout ce qui s'est passé à ce moment-là, ils veulent les membres de la famille, même père et même mère. Et moi, il est mon cousin. Et je leur dis que je suis le cousin, mais ils ne veulent pas que moi j'entre en possession de cette vidéo.
Josué Nandikoué, résident de Rockford, dans l'État américain de l'Illinois.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'état de la démocratie en Afrique. Les dernières élections au Tchad et au Bénin, qui ont vu l'absence des principaux opposants, ont suscité un débat sur le recul démocratique sur le continent. Plusieurs analystes évoquent une volonté de confiscation du pouvoir par les régimes en place. Entre modifications constitutionnelles, arrestations ou exil d'opposants, ou tout simplement leur disqualification dans les processus électoraux, la démocratie est-elle sous attaque, y compris dans des pays qui étaient jusqu'ici cités? C'est un exemple. Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Ici à Washington, le président Joe Biden a martelé lundi qu'il était disposé à négocier la portée et le financement de son plan d'investissement dans les infrastructures qui fait face à de vives critiques chez les républicains et des réticences parmi certains démocrates. Soucieux d'afficher sa volonté d'aboutir à un consensus, M. Biden a convié hier des parlementaires républicains et démocrates à la Maison-Blanche pour discuter de ce plan qui s'élève à quelque 2000 milliards de dollars sur 8 ans. Reportage de Michel Quinn de la VOA, récit de Lionel Gahima.
Citons l'exemple du président Franklin Roosevelt et de son célèbre programme du New Deal pour relever l'Amérique après le crash boursier de 1929, Joe Biden veut transformer le pays au sortir de la pandémie du COVID-19. En plus des investissements dans les routes, les ponts, les voies ferrées, les aéroports en mauvais état, mais aussi dans le réseau Internet à haut débit, il prévoit notamment d'importants investissements pour développer la flotte des véhicules électriques, les écoles, ainsi que les aides à domicile ou la recherche et le développement. Le président américain fait face au même dilemme qu'il avait plus tôt cette année avec son plan de relance économique de 1 900 milliards de dollars. Faudra-t-il négocier le contenu du projet et le financer avec l'accord des républicains ou bien aller de l'avant avec le soutien des démocrates? Le soutien de tous les sénateurs démocrates est encore loin d'être garanti. Le Sénat est divisé à 50-50 entre républicains et démocrates. La vice-présidente Kamala Harris peut faire basculer cette égalité. Jennifer Granholm, la secrétaire américaine à l'énergie.
Le président est prêt à négocier. Il sait que son plan actuel va être changé. C'est la nature même du compromis. Donc, que ce soit dans un gros paquet ou plusieurs petits paquets, il veut parler avec les républicains.
Les dirigeants républicains ont affiché leur opposition au projet, le disant gigantesque. Ils s'opposent aussi à la façon dont Biden propose de financer en augmentant les impôts des sociétés à 28% contre 21% actuellement. Cela va annuler en partie les réductions d'impôts effectuées par le président Donald Trump il y a 4 ans. Les républicains disent espérer que les négociations avec Biden vont mieux se dérouler qu'elles l'ont été avec le plan de relance économique. Le républicain Roger Wicker est sénateur du Mississippi.
Nous sommes prêts à négocier avec lui un paquet d'infrastructures. Et je vais juste vous dire que ce chiffre de milliers de milliards de dollars est beaucoup trop élevé pour moi. Mais la négociation doit être quelque chose de différent de ce que nous avons eu avec le plan de relance.
La Société américaine des ingénieurs du génie civil, dans son dernier rapport, attribue une note C- à l'infrastructure américaine. Cette association affirme que des années d'inaction ont laissé le pays avec des routes et des ponts détériorés, tandis que les aéroports et les approvisionnements en eau, les systèmes de transport public doivent être modernisés.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.